si vous regardez moindrement les médias, les nouvelles, si vous regardez un peu ce qui se passe à l'international, surtout chez nos voisins du Sud, vous avez remarqué au cours des derniers jours que ça brasse énormément aux États-Unis, particulièrement en ce moment dans l'État de la Californie, plus précisément Los Angeles, mais ça commence à s'étendre un peu partout dans le pays, les manifestations pour ce qui se passe avec l'immigration aux États-Unis. La garde nationale qui est sur place à Los Angeles, les Marines, certains Marines mobilisés et prêts à y aller si jamais Donald Trump donne le feu vert. Une guerre en ce moment très publique entre le gouverneur de la Californie et le président des États-Unis. Donc voilà un petit résumé d'à quel point ça brasse aux États.
Oui, en fin de semaine, on avait envoyé 2100 militaires à Los Angeles et on en a ajouté 2000 membres supplémentaires de la garde nationale hier. Alors comme tu l'as bien dit, le feu pogné dans les rues, mais le feu pogné au niveau politique également entre Donald Trump et le gouverneur de l'État, Gavin Newsom.
On va jaser de la situation avec Luc Laliberté, qui est chroniqueur politique. Il est au bout du fil. Hey Luc, bon matin.
Oui, bon matin.
Complètement capoté ce qui se passe aux États-Unis, plus particulièrement en ce moment en Californie. Comment tu analyses ça? Comment tu vois ça, là, le chaos qu'il y a en ce moment, là, entre autres à Los Angeles?
Écoute, il nous manque encore un certain nombre d'informations. On commence à avoir le profil des manifestants. Mais c'est difficile de pas imaginer que Donald Trump est pas en partie responsable de l'escalade qu'il y a eu à Los Angeles. Faut se rappeler le vendredi dernier comment tout ça a commencé avant qu'on en arrive aux manifestations oui. qu'on voit dans les dernières heures. C'est la police frontalière qui est gérée par Tom Homan, qui est un allié là, un peu réduit à côté de Donald Trump. On va jouer sur une question qui inquiète beaucoup les Américains, qui est la question de l'immigration, puis de l'immigration illégale surtout. Et ça, c'est parfaitement légitime. Puis les Américains ont plus confiance, en Donald Trump, qui avait confiance en Joe Biden pour régler ce problème-là. Donc, vendredi, ce que font Donald Trump et Tom Homan, c'est d'ordonner une série de raids ou de descentes à Los Angeles pour s'emparer de migrants dont on dit qu'ils étaient des illégaux et des criminels. Donc, on effectue ces descentes-là, ça sème la pagaille, et déjà, dès le départ, quand on fait cette intervention-là, on arrête des gens, mais on le fait, entre guillemets, au pif, c'est-à-dire que on va arrêter et détenir des gens sans nécessairement leur reconnaître les droits auxquels ces personnes-là devraient être en mesure de se remettre. Et c'est ça qui initie les manifestations. Donc, Donald Trump l'avait dit, les gens, puis en plus, les gens lui font confiance là-dessus, il va être dur avec la question de l'immigration, mais dès le départ, avant d'en arriver là, aux événements tristes et catastrophiques qu'on voit présentement, c'est toujours la même chose quand Donald Trump agit sur la question de l'immigration. S'attaquer au problème, c'est une bonne chose. Est-ce qu'on le fait selon les règles? Est-ce qu'on le fait en respectant le droit? Ah, donc, Donald Trump...
Le droit humain, là-dessus, là, que tu fais
référence? Oui, le droit humain, mais tout le côté judiciaire. Là, on a droit aux États-Unis, même ceux qu'on a arrêtés, on a le droit à ce qu'on appelle le due process. C'est des procédures normales. On n'est pas dépourvu de droit complètement. Là, on peut... D'abord, on interroge les gens habituellement. On va leur poser des questions. Ces gens-là ont le droit de se défendre ou ont le droit de s'expliquer.
Ouais, parce que Luc,
d'être entendu.
Oui, parce que, Luc, il y a des sans-papiers aux États-Unis de père en fils. Donc... Oui. Moi, je réfléchis à voix haute avec toi, mais je me dis, ça veut dire que les États-Unis bénéficient quand même de cette immigration illégale-là. Sinon, ça ferait longtemps qu'on aurait fait le ménage.
Ah, tout à fait. Écoute, je me concentrais plus sur les manifestations, puis ça vire à l'émeute, là. Mais oui, il y a une partie de l'économie américaine. Je ne sais pas si vous avez vu, sans trop dévier, puis aller ailleurs trop rapidement, mais en Floride, on a modifié la loi pour le travail des enfants. Pour que les enfants puissent commencer à travailler plus jeunes.
Okay.
Et les gens me posaient la question, mais pourquoi on fait ça en Floride? Parce qu'on a manqué de main-d'œuvre, et cette main-d'œuvre-là, c'était des immigrants illégaux, c'était des sans-papiers. Donc, ce sont des gens qui effectuent du travail, qui habituellement font un travail qui est fort agréable ou particulièrement valorisant, surtout qui n'est pas particulièrement payant. Et ben quand on joue dur comme ça, c'est une partie de main-d'œuvre dont on se prive. Donc, tout le monde s'entend pour dire que l'immigration illégale est problématique. mais ça devient beaucoup plus complexe et beaucoup plus nuancé à expliquer, à justifier, une fois qu'on observe tous les angles sur le terrain. Et ce que Donald Trump fait, puis habituellement, ça, au départ, en tout cas, avant qu'on se rende compte des dérapages possibles, ça plaît, c'est que dans le message de Donald Trump, il y a tout sauf de la nuance. C'est qu'on va jouer sur un sujet avec un thème, puis on va dire, nous, on est des durs, puis tous ces gens-là sont des criminels, puis on y va avec la méthode forte, puis la manière la plus radicale possible. L'exemple que j'ai pour comparer ce qui se passe à Los Angeles, puis parler du droit ou du recours aux tribunaux, c'est quand on a arrêté des gens dont on a dit ce sont des sans-papiers, mais ce sont aussi des illégaux, ce sont des criminels, et qu'on les a envoyés dans une prison au Salvador. Et là, les tribunaux ont dit, différentes instances, là, c'était des cours d'appel ou c'était des tribunaux fédéraux avant que ça se rende, dans certains cas, à la Cour suprême. Puis on a dit à l'administration Trump, vous ne pouvez pas agir comme ça. Vous pouvez pas systématiquement les arrêter puis les envoyer dans la prison au Salvador, qui est finalement devenu un camp de détention. C'est-à-dire que ces gens-là sont privés de tous les droits. Ils ont même pas le droit d'en appeler de cette situation-là, ni de s'expliquer. Donc, vous les privez de l'ensemble de leurs droits. C'est un peu ce qui est derrière la manœuvre de la police frontalière à Los Angeles. Et une fois qu'il y a des manifestations en réaction au comportement de la police frontalière, là, ce que Donald Trump a fait, et ce qui est, c'est historique parce que ça arrive pas souvent, il a dit, ben OK, moi, je pense qu'on a perdu le contrôle, puis j'utilise la garde nationale. La garde nationale, c'est une drôle de bibitte en termes de force. Là, c'est d'abord, normalement, soumis au pouvoir du gouverneur et c'est rattaché à un État en particulier. Mais le président américain a le droit, il y a trois grandes conditions, ou catégories de conditions pour dire, je vais, on appelle ça, fédéraliser la police, la garde nationale. Donc, le président peut le faire si son pays est envahi, ça se correct qu'on le comprend. On peut faire ça si on a une insurrection, si on tente de renverser le gouvernement. Là, on est plus proche un peu du 6 janvier 2021. Et on peut le faire quand on a l'impression qu'à partir des forces habituelles puis des lois habituelles, si on n'est plus capable, en vertu de ça, de maintenir le contrôle, de faire respecter la loi, là, on a le droit d'appeler la garde nationale. Et c'est là où il y a une escalade. Non seulement on a procédé à des arrestations de façon cavalière, de manière brutale dans certains cas, mais dans un autre cas, là, ce que vient de faire Donald Trump, c'est d'aller contre la mairesse de Los Angeles, Karen Bass, qui est une démocrate, et il est allé contre le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, qui est aussi un démocrate, qui sera probablement sur les rangs pour la prochaine présidentielle. En tout cas, il va probablement s'essayer pour les primaires.
Hey Luc, ça m'amène à ma prochaine question, parce que je voulais te poser ça, puis corrige-moi si je me trompe, il y a une autre couche à ça, puis j'aimerais, si j'ai raison, que tu l'expliques. Il y a une autre couche, puis il y a un côté personnel, Donald Trump, avec ce qui se passe en Californie aussi, je crois. Tu sais, évidemment, c'est pas beau voir, il y a des manifestations, on le sait, ça brasse, on le sait. Mais il n'y a jamais eu une bonne relation entre l'État de la Californie et Donald Trump ou le gouverneur de la Californie et Donald Trump.
Non, ça, voilà, c'est ce qui se passe. Là, puis c'est vraiment ce que je vais dire repose, bien sûr, sur des données, mais aussi sur mon opinion personnelle là-dedans. Ce qui se passe présentement fait l'affaire de Donald Trump au plan politique parce qu'on est dans un État qui est démocrate et qui a voté à des millions de voix de plus pour les démocrates, pour Joe Biden ou pour Kamala Harris, que ce qu'on a accordé à Joe Biden. Et il y a effectivement une relation qui est particulièrement tendue entre le gouverneur de la Californie et Donald Trump. Pour Donald Trump, la Californie, Newsom, quand je dis qu'il fait pas dans la nuance, tous ces gens-là, c'est des woke, hein, c'est des progressistes, et c'est exagéré, ils sont beaucoup trop à gauche, ils font partie des élites. Et quand Donald Trump dit qu'il est même prêt à arrêter le gouverneur de la Californie, c'est là où je dis, là, on a des faits, là, c'est quand même pas rien. Le président, à mon avis, outrepasse ses droits et dit que ce serait une très bonne chose que d'arrêter le gouverneur de la Californie. Si ça, c'est pas un jeu ou une récupération politique, après avoir provoqué une escalade, on se livre à un jeu politique qui est particulièrement mesquin parce que faut se rappeler qu'il y a des vies humaines sur le terrain avec ça. Et il y a même des gens qui sont très mal à l'aise sur le terrain d'effectuer le boulot qu'ils sont en train de faire. Écoute, on a fait débarquer, là, on a demandé aux Marines, un détachement de Marines, de s'ajouter à la garde nationale. Quand Donald Trump a pris cette décision-là, On lui disait sur le terrain, à la fois la mairesse de Los Angeles et le gouverneur de la Californie, le LAPD, la force policière de Los Angeles, ils en ont vu des soulèvements et ben des manifestations avant. Et ce qu'on envoyait comme message, c'est n'envoyez pas la garde nationale. Vous allez provoquer une escalade. Oui. Et on la voit, l'escalade, présentement.
Justement, Luc, mars 1991, le cas de Rodney King est battu à mort par des policiers. Oui. Il y avait eu des manifestations monstres. Oui. Quel parallèle on peut faire entre les deux? Ou est-ce que c'est un conflit? C'est des manifestations qui sont aussi importantes que ce qu'on avait vu en 91. Et moi, je me souviens, j'avais 12 ans et c'était vraiment impressionnant ce qui se passait là-bas.
On n'est pas rendu là encore, puis c'est bien, tu vois, là, ça permet de faire une transition vraiment directe avec ce que j'étais en train de dire.
Ben oui, puis t'es, comme tu es un prof d'histoire, Luc, c'est sûr qu'on allait entrer dans l'histoire de Los Angeles et les manifestations.
Puis à l'époque, le prof d'histoire se souvient que on avait George Bush père qui était là.
Oui, c'est vrai.
Et le gouverneur de la Californie, ça aussi, hein, les choses changent avec le temps. On a l'impression aujourd'hui que la Californie, elle est démocrate, puis qu'on n'aura jamais rien d'autre que des démocrates au pouvoir en Californie. À l'époque, on avait un gouverneur républicain. Donc, quand on le fait intervenir la garde nationale, là, c'était une véritable guerre qui se déroulait à Los Angeles après les événements impliquant Rodney King, ils étaient de mèche. Le gouverneur et le président étaient d'accord pour qu'on fédéralise la garde nationale, c'est-à-dire que le président puisse ordonner qu'on déploie la garde nationale pour aider à ramener le calme. Donc, on n'est pas dans la même logique. Ça n'a pas tout à fait la même taille encore, là, l'importance. C'est catastrophique, on s'entend, là, mais on compare les deux événements dans le temps. Et surtout, je répète, donc cette fois-là, il y avait une volonté commune. C'était très, très clair. Puis on avait attendu plus longtemps. Moi, ça m'a étonné que Donald Trump le fasse aussi vite que ça. Et Donald Trump, j'ai beau reconnaître des torts à Donald Trump, là, s'il s'était gardé en réserve un petit peu, puis qu'il avait travaillé de concert avec le gouverneur de la Californie, puis qu'à un moment donné, on constate que la police est vraiment totalement dépassée, là, on se dit, les deux peuvent travailler ensemble. Et on revient encore là des années en arrière. Quand il y a eu des catastrophes dans plusieurs États, la dernière dont je me souviens, où il y avait eu une grande collaboration, c'était au New Jersey. C'était une question humanitaire. Puis Barack Obama et Chris Christie, à l'époque, qui était un républicain opposé à Obama, s'étaient littéralement donné la main et ils avaient travaillé de concert pour venir en aide aux gens du New Jersey. Si on veut venir en aide aux gens de Los Angeles pour ramener la paix, on s'attendrait à ce qu'on ne fasse pas de politique avec ça. Mmh. Et là, c'est tout le contraire. On a vraiment radicalisé, puis on a provoqué une escalade, puis on voit qu'il y a une confrontation bien, bien réelle. Puis écoute, on est rendu loin. En réponse à Donald Trump qui dit à Gavin Newsom, finalement, ce serait bien qu'on t'arrête, l'État de la Californie, par la personne de Gavin Newsom, poursuit maintenant l'administration de Donald Trump parce qu'on pense qu'on a outrepassé ses droits comme président en déployant la garde nationale, alors qu'au départ, ça semblait pas nécessaire.
Hey, Luc, en terminant là, et rapidement, est-ce que, selon toi, tu crois que ça va se limiter, cette situation-là, à la Californie où on pourrait commencer, puis je pense que ça commence à s'étendre, mais on pourrait avoir des répercussions dans d'autres États?
C'est particulièrement volatile. Je me sentirais pas confortable de te prédire quelque chose. J'ai pas de boule de cristal. hélas, l'histoire permet de revenir en arrière, pas de prédire le futur. On le voit à quel point c'est tendu, puis à quel point Donald Trump, dans plusieurs dossiers, joue ça de manière disproportionnée quand il fait appel à l'armée, quand il fait appel à la police frontalière. Est-ce que maintenant, du seul fait de ne pas être d'accord avec Donald Trump et de manifester dans les rues, ça peut lui donner le pep ou l'impulsion nécessaire pour donner l'impression qu'il est un meneur fort et autoritaire? Retenez que c'est particulièrement volatile et c'est ce qu'on avait annoncé pendant la campagne électorale. Donald Trump, en passant, puis je vais terminer là-dessus, il n'y a rien de ce qu'il fait depuis 4 mois et demi, 5 mois qui était imprévisible. Il le fait probablement plus rapidement que ce que les observateurs pensaient avant son élection, mais on a l'impression qu'il applique mot pour mot, en guillemets, qu'il joue le livre en termes de baseball. Le livre n'existe pas, mais c'est ce qu'il avait promis, c'est ce qu'il avait dit qu'il ferait, et il le fait. Et sur la question de l'immigration, attendez-vous à ce qu'il continue, parce que c'est un des rares thèmes pour lesquels les citoyens américains sont d'accord avec Donald Trump, mais ils sont d'accord sauf sur un point. C'est ça qui va être aussi intéressant à analyser. Ils le suivent pour être durs sur l'immigration illégale avec les illégaux, mais ils s'attendent à ce que le président respecte la loi.
Ouais.
Et Donald Trump est toujours à cheval ou en contravention avec les règles.
Luc Laliberté, qui est chroniqueur politique et qui est aussi un ex-enseignant en histoire des États-Unis. Merci, Luc. Toujours très, très, très apprécié. Et on adore quand on mélange l'analyse d'une situation et l'histoire aussi. Donc, merci, cher ami.
Écoute, merci, merci à toute l'équipe et une bonne journée.
Merci à toi aussi.
Salut, Luc. Bonne journée.
Salut, Luc. Hey, toujours le fun de voir ça puis voir le parallèle. Puis c'est vrai ce qu'il dit, c'est que tu sais, Luc n'a pas de boule de cristal, mais des fois, on peut se baser sur ce qui s'est passé avant pour un peu prédire qu'est-ce qui va peut-être venir dans certaines situations.
Il n'y a pas de ça si longtemps. Printemps 2020, Black Lives Matter, avec la mort de George Floyd, c'était dans l'État du Minnesota, et c'est devenu un mouvement à l'ensemble du pays. Alors, est-ce qu'on va vivre la même chose avec les immigrants illégaux? C'est sûr qu'il y en a moins que la communauté afro-américaine aux États-Unis, mais c'est à voir. J'ai bien hâte de voir comment tout ça va se matérialiser. Et c'est clair une chose, faut combattre l'immigration illégale aux États-Unis. De l'autre côté, le laxisme des dernières années, parce qu'on en a profité économiquement, fait en sorte qu'il faudrait certainement le faire de façon plus structurée et moins, justement, précipitée.
Encore une fois, merci à Luc Laliberté. Il a toujours de bonnes discussions. On a une bonne question aussi par texto. Des gens qui se demandent, on parle de garde nationale, c'est-tu les militaires de l'armée comme telle, l'armée américaine? C'est des réservistes, la garde nationale. Donc, des soldats, oui, entraînés, mais qui ont autre fonction, autre carrière, et qu'on peut faire appel à eux dans des situations, là, de, entre autres, désastres naturels. Je disais ça hier, la dernière fois que la garde nationale est débarquée en Californie, c'est là pas si longtemps, c'était les feux de forêt de l'année dernière. Donc, des fois, on vient en renfort là, pour aider dans ce genre de situation-là. OK. Max, je sais qu'on t'a coupé.